Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le traditionnel flash résultat du lundi soir. Avant de retrouver Didier, Dédé et moi-même dans Culture Sport, où on a reçu l'association Go Next Fast. C'est le club d'e-sport d'Angoulême avec Erwan et Chloé, deux de leurs représentants. On va parler des résultats du week-end avec notamment la Coupe de France de football, où les Charentais ont été reçus à 100%. Trois clubs charentais étaient présents au cinquième tour. Les trois seront au tirage au sort du sixième tour qui aura lieu dans quelques minutes sur la page Facebook du site de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. On va commencer par la CFC qui se déplaçait du côté de Tulle en Corrèze avec une victoire 3-1. Une victoire dans la douleur pour les Angoisins qui étaient menés 1-0 à l'heure de jeu. Mais en fin de match, les hommes de David Gigle ont marqué 3 buts grâce notamment à un doublé de Noah Marchesso et un but de Léo Fichten. 3-1. La CFC est au sixième tour. Hier dimanche, deux autres équipes charentaises étaient en lice pour les rejoindre. Charente-Limousine d'un côté qui recevait Échiré. Charente-Limousine s'impose 1-0 grâce à un pénalty en fin de rencontre de Maxime Baudouin, le capitaine de Roumazière. Et de l'autre côté, Merpin accueillait Cause et Merpin s'impose 2-0 grâce à des buts d'Antonin Jean et de Valentin Barré. Merpin d'ailleurs que l'on recevra dans Culture Sport lundi prochain. Donc trois Charentais au sixième tour, c'est un excellent cru. Généralement il reste une ou deux équipes à ce stade-là, donc trois c'est super bien. On attendra de voir ce que va leur réserver le tirage au sort. Pourquoi pas un derby charentais, ça reste possible. En régional 1, il y avait du championnat de Nouvelle-Aquitaine pour ceux qui étaient éliminés en Coupe de France. Ce n'était pas le cas de la réserve de la CFC qui, elle, ne dispute pas la Coupe de France. Les hommes de David Perrier étaient en déplacement du côté de Mussidan. Une victoire 3-2 pour les réservistes de la CFC. Une victoire importante avec un doublé de Julien Inizan et un but de Kevin Georges qui permet à la CFC de prendre la tête de ce championnat de R1, sachant que c'était la seule rencontre à jouer, donc les Angoumoisins comptent un match de plus que leurs principaux adversaires, mais en tout cas ça fait 7 points sur 9, donc c'est plutôt une belle moisson pour les Angoumoisins sur ce début de saison. En Régional 2, en Poule A, le Roi a été chercher un bon nul du côté de Beaumont-Saint-Cyr, 1 partout. C'est le premier point pris par le Roi cette saison, qui a malheureusement démarré son championnat par 2 défaites. Donc le Roi 9e avec 1 point en Poule A. En poule B, Cognac jouait contre Dompierre Saint-Soul. Et c'est les Cognacés qui se sont imposés 3-1. Pareil, première victoire pour les hommes de Kenny Moko, qui remontent à la 7e place du classement. Et enfin, en poule D, victoire de Sireuil 1-0 contre la Bouscatèze, donc l'équipe du Bousca. Et match nul de Jarnac 1 partout au Médoc Atlantique au classement. Sireuil est premier avec 7 points en 3 journées. Tandis que Jarnac est 10e avec 3 points. Jarnac est invaincu, mais Jarnac n'a toujours pas gagné en enchaînant 3 nuls en 3 matchs. Enfin, en Régional 3, victoire de Ruffec 8-1 contre Husson du Poitou et malheureusement défaite de Confolens 4-0 à Saint-Benoît. Au classement, Ruffec remonte 3e avec 6 points et Confolens est dernier malheureusement avec un seul point. En poule F, Ruel et Puymoyen font 0-0. Saint-Alex s'impose à Saint-Junien 4-3. Et enfin, dans les matchs du dimanche, Soyo s'est incliné par moins à domicile contre Coulommiers-Chamiers 2-1 et Vindel s'impose contre La Roche-Rivière 3-0. Enfin, en poule G, l'Alliance 3B, qui est la dernière équipe charentaise en Régional 3, s'est imposée 7-2 contre l'Aviron Boutonnais. C'était un match important hein, déjà pour Adnan Elarchi et ses hommes, puisque c'était la confrontation entre les deux leaders. Et aujourd'hui, Charente-Limousine et l'Alliance 3B est première du classement avec 9 points en 3 matchs. Enfin, on va parler rapidement de la D1 et de la D2 en donnant les scores. Donc en D1, Saint-Michel a battu Roulé 1-0, Basso a battu Moutier 1-0, Champigny a battu Brie 3-2, les Portugais et l'Alliance 3B ont fait 0-0, Merpin s'impose à Leroy 6-2, et enfin La Couronne signe sa première victoire de la saison du côté de l'Essac 2-1. Au classement, Saint-Michel est premier. La formation de Jenny Camus qui compte 9 points. Elle est poursuivie par 3 équipes à 6 points. Merpin, Basso et Champigny. En fin de tableau, 2 équipes à 1 seul point. Brie est à 1 point. L'Alliance 3B compte 2 points en compagnie de Leroy qui compte également 2 points. En deuxième division, poule A, Charente-Limousine et Ruffec font 2 partout. La Roche-Rivière bat Mansle 3-1. Mornac bat Verdi 3-2. Bélair bat Chasseneuil 2-1. Sireuil et Montbron font 3 partout. Et enfin, Aigre et Saint-Alex font 1 partout au classement. Sireuil et Bélair sont en tête avec 7 points. 4 équipes à 2 points. Montbron, Charente-Limousine Chasseneuil et Saint-Eriex en poule B. Nouveau carton pour Linard qui s'impose 10-0 à Châteauneuf. Chazelles et Sud-Charente font 2 partout. Saint-Séverin bat Ruel 3-2. Grande Champagne bat Saint-Brice 1-0. Montmoreau et Nersac font 0-0. Et enfin, la réserve de Jarnac bat Champigny 5-1. Au classement, deux équipes à 9 points. Linard et Grande Champagne, sachant que Linard a marqué 30 buts en 3 matchs, qui fait 10 buts par match. C'est absolument astronomique. En fin de tableau, Châteauneuf compte 0 points, 3 défaites en 3 journées. On va parler du SA15 avec la défaite malheureusement du SA15 à Mont-de-Marsan 34-26 au terme d'un super match du SA15 qui malheureusement ne ramène aucun point. En national, l'UCS craque en seconde mi-temps et s'incline à Dax 34-12. En fédéral 1, Barbezieux-Jonzac ramène une lourde défaite de Langon 22-0. En handball, par contre, ça va beaucoup mieux pour les Techs, qui est reçu 4 sur 4, quatrième victoire en 4 journées pour les Techs, qui s'impose à Saint-Nazaire 35-32. Les Techs est bien sûr première de son championnat et seule première avec 12 points en 4 journées. Du côté de la Nationale 1 féminine, l'Algie au Cognac s'incline à Côte Basque 29-17. L'apprentissage en N1 se poursuit pour les Cognacesses, tandis que les Angoumoisines s'imposent à Bordes 21-19. L'ACH d'ailleurs est deuxième du classement avec 3 victoires en 4 matchs. Seul Mios est devant avec 4 victoires en 4 matchs. Cognac est malheureusement dernier avec 3 défaites en 3 journées. Du côté du basket, le LCB recevait Boigny, un match important pour les Couronnaises dans l'optique du maintien. C'est un match où elles ont été en tête pratiquement toute la rencontre et finalement elles s'inclinent de 3 points, 61-64. Donc une défaite frustrante pour le LCB qui se retrouve donc 10e du classement avec une victoire en 4 matchs. Prochaine journée pour les Couronnaises, un déplacement du côté des Herbiers. Les Herbiers qui est 8e, donc pourquoi pas essayer d'aller faire un petit coup en Vendée. Deux informations pour terminer ce flash résultat. La première, on va parler de Béhour, c'est ce sport par équipe où l'on combat en armure avec le club d'Angoulême, donc Talafr, qui avait un tournoi dans le Var du côté de Beauregard, et c'est une belle performance pour les Angoumoisins qui repartent avec 5 victoires en 8 rencontres, 5 victoires et 3 défaites. Le Béhour Angoumoisin qui termine 4e du tournoi de Beauregard, donc c'est plutôt une belle performance. Et enfin, on va parler de judo avec le tournoi Excellence de Noisy-le-Grand, avec notamment la deuxième place en moins de 73 kilos pour Marven Banama Kibiti, qui termine donc deuxième de ce tournoi parisien par rapport aux autres couronnés engagés. Manon Desfarges termine 7e en moins de 48 kilos. Marie Desangles est non classée en moins de 70 kilos. Jason Dematé est non classé en moins de 66 kilos. Et enfin, Diego Dictat est non classé également en moins de 90 kilos. D'ailleurs, on retrouvera la semaine prochaine Julie Piré et Morgane Artuis du côté de Malaga en Espagne. Et on retrouvera surtout nos 3 représentants charentais au 6e tour de la Coupe de France, puisque le 6e tour, c'est dès le week-end prochain. Tout de suite, une émission e-sport dans Culture Sport. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com et en podcast, rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire. Chaque lundi, 19h-20h30, nous accueillons aujourd'hui Erwan Michel et Chloé Peters de l'association Gonex Fast. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et bienvenue.
Merci, merci beaucoup de nous avoir invités.
Donc, on avait failli se rencontrer pour le forum Sport Santé Environnement et Erwan, vous étiez donc à l'étranger et vous avez eu l'extrême gentillesse de me rappeler après donc pour qu'on puisse prendre contact. Parfait. Donc, je vous présente nos intervieweurs. Nous avons Dédé, donc notre pilier de culture charentaise. Bonsoir Dédé.
Salut. Bonjour. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir. Erwan et
Chloé. Et bonsoir Christian.
Salut Didier.
Alors, on compte sur toi pour upgrader le niveau de l'émission. Donc, on va avoir quelque chose d'un petit peu pointu pour les gens de ma génération et celle de Dédé. On est plus en rapport avec ta génération. Ce que je vous suggère, Erwan et Chloé, c'est nous faire un historique de votre association, pour commencer.
Pour ce qui est de l'historique de l'association, en fait, on existe depuis aujourd'hui décembre 2020, où on s'est déclaré donc loi 1901. En fait, ça partait tout simplement d'un projet un projet qu'on avait avec notre école d'ingénieurs. On était au CESI école d'ingénieurs à la Couronne, à côté d'Angoulême. Et on avait ce petit projet, en fait, de monter une sorte de club e-sport. Et on sortait effectivement de la période de confinement. Et on a reçu, en fait, une cinquantaine de demandes d'adhésion rien que pour le club. Donc, on s'est dit, pourquoi pas visualiser plus grand. Et c'est pour ça qu'on a choisi donc de s'émanciper effectivement de l'école et de partir carrément sur un format associatif proposé donc sur la ville d'Angoulême. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée donc de créer l'association Go Next Fast, donc qui existe depuis décembre 2020. On a été ensuite approché en fait par le CIJ, le Centre d'information jeunesse d'Angoulême, qui est place du Champ de Mars. Et qui nous a demandé d'organiser effectivement des événements pour les écoles et effectivement de nous développer pour les écoles en fait d'Angoulême. Voilà. Voilà un peu pour l'historique de l'association.
Quelles sont exactement les activités ou ce que vous faites ? Alors, là, on a présenté, mais on va rentrer dans le fond, si vous le permettez.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on propose en fait, c'est que on a un peu cette image des gens un peu sectaires qui jouent individuellement derrière leurs écrans. Nous aujourd'hui, on souhaite complètement se détacher de cette image-là et rapprocher en fait l'e-sport à un sport co. Et c'est pour ça en fait aujourd'hui que nous on propose un accompagnement et un cadre à toutes ces personnes effectivement pour permettre à l'e-sport de devenir un vrai sport collectif sur différents jeux. Donc ça, on en parlera par la suite, mais sur différents jeux. Donc on propose en fait un cadre et un accompagnement pour toutes ces personnes, mais qui cherchent à rapprocher en fait ce domaine des jeux vidéo à un domaine qu'on appelle e-sportif, qui est le domaine vraiment compétitif de des jeux vidéo. Voilà. Donc on propose un cadre et on fait aussi pas mal de prévention. Au-delà de ça, on fait de la prévention et des interventions donc au niveau des écoles et aussi au niveau des entreprises. On a proposé ce service au niveau des entreprises sur tout ce qui va être prévention au niveau du domaine donc e-sportif et des pratiques, on va dire, dangereuses des jeux vidéo. Voilà, des pratiques à risque.
D'accord. Essentiellement dans l'éducation nationale.
Alors, essentiellement dans l'éducation nationale, mais aussi pour des privés. On a eu l'exemple d'intervention, ce que je disais, dans des entreprises. Ça peut être des banques ou ça peut être des jeunes startups. D'accord. Où, effectivement, on propose ce service-là.
Aujourd'hui, vous avez combien de followers ? On va donner la parole à Chloé, peut-être.
Chloé, ouais.
J'ai pas le nombre exact, je sais pas si je suis là, Erwan.
Ouais, alors le nombre exact, en fait, on a un serveur communautaire sur ce qu'on appelle Discord. C'est la plateforme qui nous permet en fait d'interagir un petit peu entre nous. Aujourd'hui, on est sur 700 personnes sur le Discord et sur les réseaux un peu plus communs tels que Twitter ou tels que Instagram, on est aux alentours des 300-350.
Voilà. Bon, c'est un beau satisfait ça quand même pour la création d'une jeune association comme la vôtre.
Oui, tout à fait. Oui. Enfin, on s'attendait pas du tout à avoir cet engouement-là, surtout en aussi peu de temps, en fait. Voilà. Mais on s'est vite aperçu qu'en fait, effectivement, la demande était là et qu'il n'y avait jamais eu. Aujourd'hui, on est la première association angoumoisine d'e-sport et que ça avait jamais en fait été créé auparavant. Alors que si on prend le listing des écoles qui existent sur Angoulême, on est sur 80% d'écoles avec teneur numérique au niveau des formations. Donc effectivement, le besoin et la demande étaient là et on s'en est aperçu en créant l'association.
D'ailleurs, Didier faisait référence au fait que vous étiez présent au Forum des Sports Santé Environnement. Quel bilan vous tirez de ce week-end pour vous au niveau de l'association ?
Alors ce week-end pour nous, c'est déjà une grande satisfaction de pouvoir y participer. C'est très très enrichissant pour une association d'e-sport qui effectivement se développe en premier lieu, j'ai envie de dire, en ligne. De pouvoir participer à ces événements physiques et d'être invité au même titre que n'importe quelle association. Donc pour nous, c'est déjà très enrichissant d'un point de vue personnel et c'est aussi une grande reconnaissance de la part de Grand Angoulême pour cette invitation. Et ça nous permet surtout d'avoir le contact humain qui nous manque effectivement de temps en temps au travers d'un écran. C'est ce contact humain qui est de toute façon important dans n'importe quel sport et c'est ce que nous, effectivement, on recherche. Puisqu'on cherche à développer le caractère collectif de l'e-sport et le cadre e-sportif. Donc effectivement, c'est très très enrichissant. On a pu avoir des familles qui sont venues, donc là où on fait un peu plus de prévention auprès des plus jeunes. On a aussi eu des personnes, effectivement, des étudiants qui sont venus d'Angoulême, qui voulaient s'inscrire dans un format sportif, à qui on a pu proposer des équipes, des compétitions. Donc c'est au même titre que d'autres associations, effectivement, c'est un très bon moment de rencontre.
Vous écoutez Attitude 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission chaque lundi 19h-20h30, nous retrouvons Erwan Michel et Chloé Peters de l'association Gonex Fast qui répondent aux questions de Christian et de Dédé. Messieurs, c'est à vous.
Vous évoquiez tout à l'heure des jeux auxquels vous jouiez au niveau de l'association. Quels sont du coup vos jeux de prédilection?
Oui, bah du coup, il y a principalement League of Legends. Ensuite, ça a Rocket League.
Oui.
Et on a eu aussi une sélection Valorant.
Voilà. Donc deux de ces jeux, hein, si je prends League of Legends aujourd'hui et Valorant, il faut savoir que c'est deux jeux qui sont édités par le même producteur qui s'appelle Riot Games. Et qui est aujourd'hui le producteur numéro un mondial sur les jeux vidéo, enfin qui totalise le plus grand nombre en fait de joueurs.
C'est vrai que c'est, enfin moi je, alors j'ai jamais joué à ces jeux-là, mais c'est vrai que c'est des noms, LOL notamment, donc League of Legends, c'est vrai que c'est des noms qui reviennent assez souvent et qui sont assez connus, donc effectivement, j'imagine que le nombre de joueurs doit être assez conséquent.
Oui, tout à fait.
Moi je voulais faire un petit retour sur un peu l'historique du e-sport en France, parce que c'est vrai qu'au final, le jeu vidéo est arrivé dans les années 80-90 avec les, on en faisait référence tout à l'heure hors émission avec les bornes arcade, des choses comme ça. L'e-sport, c'est arrivé un peu plus tard. Est-ce que vous avez, si vous êtes un peu renseigné sur l'historique un peu du e-sport et comment c'est arrivé en France et est-ce que, du coup, maintenant, c'est bien démocratisé en 2022?
Par rapport à ce domaine de l'e-sport, moi, je vais laisser Chloé, vous présenter un petit peu, effectivement, l'historique de l'e-sport. Et après, elle vous fera un petit point un petit peu plus spécifique sur le cas de la France, parce qu'effectivement, c'est bien développé aujourd'hui au point de vue européen, et la France, on arrive, je dirais, un peu plus tardivement. Je vais te laisser, Chloé, présenter ce domaine.
Ouais, donc, du coup, l'e-sport, bon, y a vraiment une vraie explosion à partir du confinement, vraiment. Il faut savoir que l'e-sport, si on peut donner, pour ceux qui savent pas, une définition un peu scolaire, on pourrait dire que c'est l'ensemble des pratiques permettant aux joueurs de confronter leur niveau par l'intermédiaire d'un support électronique. Donc, l'e-sport actuellement, ça représente 9 400 000 personnes en France qui consomment ou qui pratiquent. On a, si on peut parler un peu des chiffres, etc., on a 5 millions de consommateurs, on a 2,6 millions de consommateurs et pratiquants, et on a 1,6 million de personnes vraiment professionnelles, amateurs. Il faut savoir que on a vraiment une assez grande variété, que ce soit pour la parité, donc... on a autant d'hommes de femmes qui consomment et qui jouent. Pareil, au niveau de l'âge, c'est assez varié. Donc, on a, par exemple, pour les personnes qui jouent, une tranche d'âge de 15 à 34 ans, qui est représentée par 48%, donc ce qui est quand même en dessous de la moitié. Par contre, ce qui est un peu plus... désétif pour ce qui est amateur, c'est que on a 93% d'hommes contre 7% de femmes qui jouent en professionnel.
Bon, ça va, on a réparti la parité dans l'émission, tout va bien.
Oui, voilà, ça va, heureusement.
Non, mais c'est vrai que ça va un peu à l'encontre des ces chiffres-là vont un peu à l'encontre des clichés qui peuvent exister sur le fait que la population e-sportive est très jeune, dans le sens où ce que présentait Chloé, entre 15 et 34 ans, donc c'est ce qu'on peut, moi c'est ce que je dirais, hein, considérer comme jeune ou très jeune, quand on prend 15 ans, effectivement, on peut avoir des pratiques addictives dangereuses, ça représente que 48% des pratiquants, donc ça veut dire qu'en dehors de cette fourchette-là, on a plus de la moitié des personnes, donc ça veut dire qu'effectivement, ce cliché des personnes jeunes, pour moi, il existe pas vraiment si on reprend effectivement les sondages.
Par contre, là où je suis surpris, pour rebondir sur ce que disait Chloé auparavant, c'est que donc elle nous informe que ça a vraiment rebondi lors des confinements. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus tôt que ça, entre guillemets. D'autant plus qu'il y a des plateformes comme Twitch, par exemple. Donc Twitch est une plateforme sur Internet en fait où des gens diffusent leurs jeux vidéo. Alors après, je sais pas trop si vous le comptez dans l'e-sport ou pas, mais c'est une plateforme qui date de 2014-2015, un truc comme ça. Oui. Alors, peut-être qu'après j'étais dans les premiers viewers, hein, mais enfin en tout cas, oui, je suis surpris quand même que ça a autant explosé aussi récemment.
Si on doit vous citer quelques chiffres, oui. Aujourd'hui l'e-sport il a pris presque 50% entre 2019 et 2021.
Donc ça a vraiment fait un boom.
Voilà, c'est si on doit parler de courbe exponentielle sur les pratiquants de l'e-sport et les consommateurs d'e-sport, donc ceux qui simplement regardent. Je dirais que le boom, il a eu lieu là. Effectivement, il y a eu un engouement qui s'est créé avant avec, on en parlait un petit peu avant l'émission, des jeux comme Counter-Strike, hein, qui sont des jeux historiques sur l'e-sport. Mais le vrai boom, on va dire, en matière de pratique, je dirais qu'il a vraiment eu lieu sur le confinement où effectivement les gens se sont retrouvés chez eux. et se sont retrouvés souvent pour la plupart d'entre eux sur un ordinateur ou sur un écran et en ont entendu parler. Et c'est à partir de ce moment-là, je dirais, que les médias ont aussi pris le relais. Donc ça, Chloé, je pense que tu peux en parler un petit peu des médias, notamment les médias comme l'Équipe, qui aujourd'hui parle d'e-sport quotidiennement.
C'est ça. Par exemple, le journal L'Équipe, qui est très connu dans le domaine du sport, a plusieurs fois a mentionné l'e-sport. Donc, on a par exemple le cas lorsque la Carmine a officialisé l'arrivée de Rekkles, où on a eu un article dans L'Équipe. Et aussi par rapport aux subventions reçues par Vitality, parce qu'ils ont reçu 50 millions d'euros. Et par rapport à leur nouvelle équipe Counter-Strike. Donc vraiment, c'est de plus en plus médiatisé, quoi.
Ça va pas aller en diminuant, puisqu'on a l'exemple des JO, de toute façon 2024, qui ont été annoncés JO eSport 2024. Oui. Donc, on peut tout à fait imaginer que annoncé par le CIO, donc on n'est pas sur, entre guillemets, une fake news, hein, on est sur une vraie info.
En sport de démonstration ou en sport
Aujourd'hui, ce sera en sport de démonstration, dans le sens où ce sera des sports physiques retranscrits dans les jeux vidéo. D'accord. On a l'exemple, pour ceux qui connaissent, par exemple, d'un jeu qui sera présent, hein, qui s'appelle Virtual Regatta.
Oui.
Virtual Regatta, c'est très connu, hein, ça s'est lancé, enfin moi personnellement je l'ai connu par le biais du Vendée Globe qui a lieu chaque année en...
Oui, tout à fait, c'est le Vendée Globe numérique, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Donc ça, ce jeu-là, par exemple, sera présent. Donc pour l'instant, on sera sur des jeux type ce qu'on a pu connaître, par exemple, sur des anciennes consoles, sur les Wii, par exemple, sur des jeux type Wii Sports, sur du tennis ou sur des choses comme ça, sur des sports physiques qui sont digitalisés, en fait. Voilà.
D'accord. Et puis pour compléter ce que disait Chloé, son très bon rapport, il y a aussi des clubs de football notamment qui ont lancé leur section e-sport. C'est signe que finalement c'est un domaine qui est porteur et qui explose. Hein. C'est que même les clubs sportifs finalement créent leur propre team pour finalement les représenter.
Tout à fait.
Exactement. Qui fait beaucoup de choses en rapport avec l'e-sport. Et notamment avec beaucoup de streamers sur Twitch, on pense à Gotaga, où ils font beaucoup d'événements FIFA, etc. Et les joueurs sont vraiment... rencontrent vraiment les streamers, et il y a vraiment ce mélange qui est fait. Ouais.
Oui, tout à fait. On a l'exemple de grosses équipes. Hein. Si on doit parler de grosses équipes, effectivement, enfin, j'en citerai deux pour la France. Hein. On a aujourd'hui Vitality et la Carmine. Pour synthétiser Vitality, cette année, ils ont reçu un investissement, donc, comme disait Chloé, de 50 millions d'euros pour développer leurs équipes e-sport. Et il faut savoir qu'ils ont leur siège social au sein du Stade de France. Donc, ils s'entraînent dans une succursale du Stade de France. Donc, ça donne un petit peu aujourd'hui la dimension que peut avoir l'e-sport. Et pour citer la Carmine Corp, on a l'exemple, donc, eux, ils jouent en ce qu'on appellerait la première division sur League of Legends, où ils ont rempli deux fois la Corotel Arena pour les événements KX1 et KX2, par exemple, qui sont des événements physiques. Et où ils ont organisé pour la première fois en France cette année, donc c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on le cite aujourd'hui, des journées de championnat sous format présentiel, donc avec un public. Tout comme au foot, on peut aller en tribune voir et supporter son équipe. Aujourd'hui, la Carmine a réussi à le proposer, notamment sur des zéniths comme les zéniths de Nice, où ils ont effectué, je crois, une ou deux journées de championnat en format physique avec un public.
Ouais, donc le public finalement voit les... Alors moi j'appelle ça des gamers, mais on peut appeler ça des e-sporteurs. Je sais pas.
Je pense que il y a vraiment une distinction à faire entre le effectivement.
Oui, la personne qui joue. Surtout qu'en plus gamer, ça a une petite connotation un peu négative. C'est un peu un peu en mode geek seul chez lui entre guillemets.
Tout à fait. Aujourd'hui un e-sportif utilisera le mot gamer dans le sens de la blague. Voilà.
Oui, oui.
Aujourd'hui un e-sportif, ce qu'on appelle un e-sportif ou un joueur amateur, tout comme sur un sport collectif, hein, c'est un joueur qui aujourd'hui vit de l'e-sport. Et aujourd'hui, on parle de vivre de l'e-sport, on en parle comme d'un vrai sport. Hein. On parlait du transfert de Rekkles. En fait, c'est un joueur qui est très connu à l'international, qui aujourd'hui est arrivé dans une équipe française, donc qui malheureusement est reparti cet été sur le mercato, mais qui est arrivé l'année dernière sur une équipe française. On parle d'un transfert à plus de 200 000 euros. Donc, on est aussi sur des montants qui se rapprochent à des montants sportifs professionnels. Hein. On en vit aujourd'hui pleinement.
Ah oui, c'était justement ma prochaine question. On y vit alors du e-sport aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui.
On en vit, pardon.
On peut totalement vivre du e-sport. C'est très compliqué dans le sens où aujourd'hui, il n'y a pas de fédération qui existe, fédération officielle d'e-sport. Donc, si vous voulez, les sources de revenus sont très différentes, dans le sens où aujourd'hui, on a l'exemple du foot qui fonctionne majoritairement grâce aux droits de télé ou à des mécènes. Hein. On a l'exemple d'équipes françaises qui fonctionnent grâce à des mécènes. Aujourd'hui, l'e-sport, ça fonctionne essentiellement par le biais de sponsoring. Pourquoi? Si j'explique un peu ça, aujourd'hui vous avez l'exemple de la Karmine Corp, qui est la plus grosse équipe, on va dire française, de League of Legends, la plus suivie aujourd'hui et streamée en France. Son budget est géré à 60% par le biais de sponsoring et de partenaires financiers. Voilà. C'est-à-dire que tout le reste, c'est des ventes, c'est sa fonction, son budget de fonctionnement est solvable grâce au maillot, en fait, grâce aux ventes de maillots et à la publicité. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est la première équipe française. Nous, on parle aujourd'hui de, effectivement, on est une association sur Angoulême. Donc, le sponsoring, il représente une part qui est beaucoup, beaucoup plus importante. Puisqu'effectivement, on parlait de la plateforme Twitch, nos revenus aujourd'hui qui sont générés par le biais de Twitch ou par la vente de maillots n'équivalent pas celles aujourd'hui de la Karmine Corp. Donc c'est pour ça que c'est important effectivement de le signaler sur la partie des revenus. Ce qui fait fonctionner l'e-sport aujourd'hui, ce sont les partenaires et le système sponsorship, uniquement.
Peut-être et aussi les compétitions où il y a des dotations, non ?
Il y a pas des dotations. Alors, il y a effectivement les dotations, mais aujourd'hui les dotations, on le sait très bien, aujourd'hui les tournois, l'inscription au tournoi est payante, tout comme l'inscription dans les ligues est payante, c'est un format un peu particulier. Aujourd'hui, on achète des places, c'est-à-dire qu'en Ligue 1 de League of Legends, il y a admettons 10 places. Ce sont des places qu'on achète, c'est-à-dire que l'équipe l'achète. Donc forcément, ça fait monter les enchères au niveau des sponsors, au niveau des équipes. C'est pas forcément, il y a certaines places qu'on obtient en mérite avec les descentes et les montées, mais le reste des places, on peut les acheter. C'est-à-dire qu'en cas de difficulté financière, tout comme dans n'importe quel sport, aujourd'hui une équipe peut descendre.
Et dans ce cas-là, elle peut revendre ses places à d'autres équipes qui voudraient l'intégrer.
Voilà, les places sont remises en vente effectivement, okay. Et d'autres équipes peuvent les réintégrer.
Vous écoutez Attitude 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Erwan Michel et Chloé Peters de l'association Gonex Fast qui répondent aux questions de Christian et de Dédé. Messieurs, c'est à vous.
Vous avez combien de salariés au sein de l'association? Et il y a eu une assemblée
Aujourd'hui, on est
au siège social.
Aujourd'hui, on est très très jeune, donc on n'a pas encore malheureusement de salariés. On a fait une demande effectivement pour avoir un salarié, au moins un accompagnement. Souci en fait qu'on a eu, c'est qu'effectivement avec l'engouement, ça s'est développé très très vite et j'ai envie de dire par chance, hein, on a été très vite soutenu par la ville et l'agglomération, je vous remercie au passage, dans le sens où en 8 mois, il a fallu qu'on organise en fait un événement qui nous a été demandé en fait dans le cadre de l'engouement étudiant, c'est-à-dire de l'accueil des primo-arrivants et effectivement de la mixité et du croisement des écoles. Donc ça nous a pas forcément effectivement laissé le temps de nous structurer administrativement parlant, j'ai envie de dire, et de prendre effectivement un licencié, puisqu'on a été très accaparé par l'organisation de cet événement qui a eu lieu en octobre 2021, qui se nommait donc l'Angoulane. C'est un événement qui, voilà, à titre d'anecdote, totalisait un budget de près de 65 000 euros.
Et ça a été un événement positif pour vous ?
Très positif. Très, très positif dans le sens où sur le week-end, on a reçu un peu plus de 300 personnes. Et donc, ça pouvait être effectivement hein, des étudiants nouvellement arrivés, des familles, des personnes seules, curieuses de découvrir effectivement un nouveau domaine. C'est un événement qu'on a organisé tout public. Donc, il y avait la partie compétition pour effectivement les puristes. Et on avait aussi tout un espace de découverte, comme on le fait aujourd'hui et comme on le propose tous les jours nous au sein de l'association. On avait des conférences sur quels sont les métiers aujourd'hui de l'e-sport, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans l'e-sport, est-ce qu'il y a des métiers, est-ce qu'il y a des diplômes d'État, comment ça fonctionne. Donc ça, on l'avait organisé en partenariat avec l'école Helios Gaming School qui est sur le campus d'Angoulême dans les locaux de Media School. Et on avait aussi d'autres animations sur... pour accompagner aussi les familles, effectivement, dans cette transition sur le développement de compétences au travers de l'e-sport. Sur quelles compétences peut développer aujourd'hui notre enfant si on le laisse jouer aux jeux vidéo? Est-ce que sur une pratique encadrée, il peut pas développer des compétences qu'il ne développerait pas forcément sur d'autres jeux? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Qu'est-ce que nous aussi, on peut leur apporter? Et on a aussi toute une partie un peu loisir qu'on avait proposé à tout le monde avec des bornes d'arcade, on en parlait tout à l'heure, avec des vieux jeux rétro, hein, bornes d'arcade japonaises où on joue assis, bornes d'arcade européennes où on peut jouer debout. On avait aussi des vieilles consoles, des consoles récentes. C'était un événement vraiment tout public. Donc c'était effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Et à partir de cette année, donc nous, c'est la démarche qu'on a pris au niveau de l'association. Effectivement, on se structure un peu plus... Enfin, on se structure un peu mieux et on a fait effectivement une demande aujourd'hui auprès de la ville et de l'agglomération pour effectivement essayer de pouvoir embaucher notre premier licencié au niveau de l'association. Voilà.
Et donc par rapport à la sauce, donc vous avez un serveur Discord. Oui. Est-ce que du coup les sessions de parties sont exclusivement online ou est-ce que vous avez par exemple un, je sais pas, une salle ou un local où, où vous réunissez tous pour faire des parties en réseau?
Alors aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas encore de locaux. Parce que les locaux, c'est très onéreux et aujourd'hui, en termes de budget de fonctionnement, on est assez limité puisque l'e-sport est aujourd'hui assez peu reconnu dans ce qui va être les demandes de subventions, y compris publiques. Hein. Et puis, on vous l'a dit, hein, ça fonctionne essentiellement par le biais de sponsoring et de partenaires. Donc aujourd'hui, on a des partenaires qui nous suivent. Ça ne nous permet pas aujourd'hui de prendre des locaux à proprement parler. Maintenant, il en reste pas moins que c'est une activité qu'on souhaite proposer. C'est pour ça qu'on se déplace aussi effectivement pour faire des animations, mais on se déplace souvent dans les locaux des organisations dans lesquelles on intervient.
D'accord. Ouais.
Aujourd'hui, voilà, on n'a pas encore les moyens d'avoir nos propres locaux.
Donc au final, quand vous allez dans leurs locaux, vous utilisez le matériel qui est sur place ou vous avez quand même un stock de matériel
Par contre, effectivement, on a quand même un stock de matériel. On vient avec notre propre matériel dans le sens où on amène notre prestation avec notre matériel.
Oui. Moins,
ça permet aussi d'être sûr que ça fonctionne. Hein. C'est toujours aussi le grand mot, mais au moins on arrive avec notre matériel, on propose une prestation complète et puis ça permet effectivement à chacun de prendre plaisir sur l'intervention.
Les prestations, vous les faites le week-end?
Ça peut arriver, oui. C'est sur demande en fait du client. Hein. C'est on peut les faire le week-end ou en semaine. Vous imaginez bien que les organismes publics le préfèrent en semaine. Alors que sur du privé, par exemple, sur des interventions qu'on peut faire, ça peut être un samedi matin, par exemple, ou un dimanche, le cas échéant, si c'est ouvert. Voilà. Tout dépend du type de public.
Vous avez beaucoup de demandes?
Alors, oui, on est relancé souvent sur ce sujet-là, puisque c'est quelque chose qui est tout nouveau et qui, en fait, si on fait un petit sondage, aujourd'hui, on a pu travailler notamment avec un partenaire privé. Qui a joué le jeu en fait avec nous et qui a sondé au sein de sa caisse régionale tout simplement qui était pratiquant d'e-sport et qui jouait peut-être dans leurs locaux ou qui était intéressé par ce type de conférence. Et on se rend compte qu'en fait les personnes en parlent pas forcément parce que c'est un peu méconnu, mais aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce domaine-là, qui jouent peut-être aussi en secret, qui jouent sûrement tout seul comme on a l'image. Le but, c'est ça. On voit que c'est un domaine émergent. Les gens commencent à en parler. Donc, nous, ça nous permet effectivement. Quand on va dans des entreprises, ça peut être. On peut organiser, par exemple, un tournoi inter-entreprise sur Angoulême. Ça peut être des choses comme ça. C'est aujourd'hui un projet qu'on aimerait porter, qui est pas simple, mais c'est aujourd'hui un projet, par exemple, qu'on aimerait porter, un tournoi inter-entreprise sur la ville d'Angoulême.
Par rapport au club e-sport ou aux assos, est-ce qu'il y en a d'autres en Charente, ou en Poitou-Charente, ou en Nouvelle-Aquitaine? Enfin, est-ce que vous êtes, affilié ou jumelé avec d'autres associations, et le bon terme, mais est-ce que vous êtes en contact en tout cas avec des gens qui font comme vous?
Effectivement, je pense que le chiffre va vous paraître énorme, mais aujourd'hui en France, on totalise, hein, et je vous parle d'associations référencées loi 1901, pas de bruit de couloir, hein, on parle aujourd'hui de 1400 ouais. associations e-sport en France. Donc c'est aujourd'hui pas un petit monde.
Hein, oui, et puis c'est un chiffre qui va monter en plus.
Tout à fait, après, c'est un chiffre. Enfin, si on prend l'année dernière, on était 800, donc on en a 600 en création en une année. Ouais. La courbe est plus qu'exponentielle sur ce.
Pratiquement du x2 en un an au final.
Aujourd'hui, on est partenaire avec beaucoup, effectivement. Alors, je dis bien partenaire parce que chacun travaille un peu en solo. Par contre, il y a beaucoup de groupes de travail qui existent et qui groupent les associations. Aujourd'hui, on est pour parler de création d'une fédération. Une fédération, pour la créer, il faut qu'il y ait plusieurs porteurs de projets et donc ça permet de créer des groupes de travail, notamment par région. On a eu la chance l'année dernière, donc mon président a notamment eu la chance de participer à un groupe de travail sur effectivement la création de cette fédération par rapport à la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça regroupait une trentaine d'associations sur la Nouvelle-Aquitaine par exemple. Donc il y a plein de petits groupements en fait qui existent, qui permettent par exemple de faire des matchs croisés, hein, de faire des ligues fermées, des matchs croisés. Donc pour ça c'est effectivement très intéressant. Maintenant sur la ville d'Angoulême, dans notre domaine de compétences, c'est-à-dire dans l'accompagnement des jeunes sur les trois jeux qu'on propose, on est la seule association qui le propose. Les autres associations e-sport qui existent sur le domaine angoumoisin sont des associations qui gèrent notamment une équipe principale. C'est-à-dire qu'elles sont spécialisées dans un jeu et elles lancent une équipe à fond sur un jeu. Là où nous, on essaie de proposer un peu plus, on va dire, un partage que de l'élitisme, dans le sens où on partage, on souhaite développer un sport collectif, au même titre que voilà le foot ou le basket, plutôt que de développer une élite. Puisqu'une élite, le problème d'une élite, c'est que sans subvention, on l'a bien vu, aujourd'hui, de toute façon, on ne pourra pas participer aux premières ligues de League of Legends ou même en Ligue 2. Donc, autant se spécialiser, nous, c'est le choix qu'on a fait, hein, autant se spécialiser sur le domaine amateur et proposer quelque chose de grand public et d'accompagnement, plutôt que sur un domaine spécialisé, quoi.
Oui, voilà. Puis de toute façon, la première essence d'un jeu, c'est le fun et de prendre plaisir à jouer.
Tout à fait, surtout sur un sport collectif. Hein. Si aujourd'hui on veut progresser sur un sport collectif, il faut que l'équipe s'entende et il faut qu'ils puissent progresser ensemble.
Ouais, et puis là où je vous rejoins, enfin moi j'ai pas fait d'e-sport, mais j'ai été dans une activité qui n'était pas reconnue officiellement comme sport, mais que nous on considérait comme un sport, le poker en l'occurrence. C'est vrai que les clubs avaient créé entre eux le groupement régional des associations de poker, donc un peu une ligue régionale, et il y avait même une sorte de fédération. Alors c'était pas une fédération française de poker, ça s'appelait le club des clubs, qui organisait donc un championnat de France par équipe à l'année, et donc il y avait des qualifications régionales, et c'est Et au final, tout un réseau, chaque région avait ses qualifications pour finalement se retrouver sur une finale qui était nationale. C'est un peu, ça pourrait un peu se diriger vers ce modèle, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Ça se dirige même complètement vers ce modèle-là.
Ouais.
Vous parlez du poker, c'est très intéressant parce que nous, sur Angoulême, on a eu des contacts avec notamment l'association des jeux de table. Voilà, on avait eu un contact avec monsieur Julien Hamet, qui était anciennement donc notre professeur au CESI, mais qui fait aussi partie de cette association de jeux de table, et qui a fait heureusement partie aussi de notre association en tant que joueur, et qui proposait effectivement, par exemple, de jumeler ce type d'événement pour pouvoir déjà réduire les coûts. On en parlait, réduire les coûts au niveau des locaux, voilà, au niveau de la location des locaux pour ce type de compétition, et aussi permettre de faire parler un petit peu plus ce type de jeu et ce type de fédération. Puisque de toute façon, ça développe des compétences qui sont certes moins physiques, mais qui sont tout aussi, on va dire, compliquées et dures à gérer. Aujourd'hui, on a l'exemple, nous, de nos joueurs. On a eu la chance d'avoir deux équipes qui ont participé à ce qu'on appelle l'OTF. L'OTF, aujourd'hui, ça regroupe les 66 meilleures équipes françaises. Donc, on a eu deux équipes, nous, de notre association, qui ont pu participer à ce tournoi-là. Il faut savoir que c'est un tournoi qui est sur sélection et sur dossier. Et qui est un tournoi d'élite, hein. C'est juste en dessous de la ligue. Enfin, c'est comme si on était en National 1. Voilà, tout simplement. C'est aujourd'hui, c'est vraiment de l'e-sport amateur. Donc, on a pu y participer. Pour participer à ce tournoi-là, il a fallu mettre des moyens aussi en œuvre, tels que des coachs mentaux, des préparateurs physiques, des entraîneurs. Il y avait aussi une surveillance des heures de nous pour ce qui est des heures de connexion et des temps de jeu. Puisque c'est important. Aujourd'hui, la personne qui sera performante en e-sport, c'est pas forcément celle qui va jouer 12 heures par jour. On parle aujourd'hui de...
Oui, c'est celle qui va optimiser son temps, au final.
Tout à fait. Mm-hmm. Qui va optimiser son temps, qui va optimiser aussi ses réactions, voilà. Il y a toute une équipe mise en place autour de l'e-sport, on va dire amateur et donc professionnel, qui est tout aussi importante que sur d'autres sports.
Vous écoutez Attitude 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Erwan Michel et Chloé Peters de l'association Gonex Fast qui répondent aux questions de Christian et de Dédé. Messieurs, c'est à vous.
Je refais un parallèle avec le poker, mais c'est vrai qu'il y a toujours, entre guillemets, un risque d'addiction, que ce soit au jeu, hein, que ce soit au pari sportif même si c'est des choses qui sont complètement différentes. Dédé, tout à l'heure, vous parlez d'école primaire, parler d'école, en tout cas, est-ce que il y a cette sensibilisation à un public jeune qui fait que attention, l'e-sport, c'est cool de jouer à des jeux, mais si on y joue trop, ça peut être addict, entre guillemets.
Tout à fait. Alors déjà, nous, au niveau de l'association, on a mis un critère d'âge effectivement pour l'adhésion, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en dessous de 16 ans. Il faut évidemment que le développement personnel et individuel se fasse avant de rentrer dans une association qui soit totalement effectivement pour l'instant en ligne. C'est effectivement pas simple de le gérer, je pense, avant. Et il y a effectivement tout cet aspect prévention où nous, effectivement, on a la vue, hein, sur toutes les personnes qui sont présentes, au même titre que sur un local physique. Aujourd'hui, on a la vue sur toutes les personnes qui sont présentes. Et on a ce rôle, voilà, on a des personnes qui sont dédiées à ça aussi, et qui ont ce rôle effectivement de faire la prévention au niveau des familles, qu'on rencontre aussi au niveau des familles, sur on a des entraînements encadrés. En dehors des entraînements, on n'a aucune obligation de présence. Nous, on fait avant tout de la prévention là-dessus, c'est que on a des entraînements qui sont encadrés, qui sont prévus. Donc ça, de ce côté-là, il y a pas de souci. On a des compétitions qui aussi sont prévues où les horaires sont annoncés suffisamment à l'avance. Maintenant, sur le reste des pratiques, on fait effectivement régulièrement des actions de prévention ou même sur des personnes qu'on voit régulièrement connectées. Est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'être là? Voilà. C'est des questions qu'on se pose, qu'on leur pose. On travaille là-dessus parce qu'effectivement, c'est un domaine qui est important au même titre que le poker. Hein, c'est exactement le même problème sur l'addictologie. c'est une addictologie qui peut aussi exister hein, dans le domaine du sport. Hein. On a des personnes qui sont totalement accro au sport, qui ne s'arrêtent
jamais. Oui, bien sûr. Qui se surmènent et qui se mettent en danger intégralement.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc c'est voilà, aujourd'hui on exerce le même type de prévention que ce qui est fait dans les autres domaines.
Je suis tombé sur un article de presse du journal du Sud-Ouest qui a annoncé la création d'une école d'e-sport du côté, je crois que c'est à Mérignac. Il me semble aussi qu'il y en a peut-être une sur Angoulême. Est-ce que vous êtes un peu renseigné sur les cursus qui sont proposés et finalement quel débouché on peut avoir avec l'e-sport lorsqu'on fait un cursus scolaire en rapport avec cette activité?
Tout à fait. Alors en fait, aujourd'hui, il faut bien distinguer. Il y a deux types d'écoles. Vous avez des écoles qui vont proposer des formations pour devenir ce qu'on appelle e-sportif amateur. Donc, c'est le circuit professionnel, on va dire, de l'e-sport. Où là, c'est plus un circuit, on va dire, élitiste. Où c'est tout comme sur le sport de haut niveau. Seuls les meilleurs vont sortir. On parle aujourd'hui de 3% des pratiquants. Hein, donc, c'est pas énorme. Donc, vous avez ce type d'école là qui existe, mais c'est pas aujourd'hui les plus répandues. Celles aujourd'hui qui se démocratisent, ce sont des écoles qui proposent des métiers autour de l'e-sport. Alors, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par les métiers autour de l'e-sport? Ça peut être effectivement du coaching mental, mais ça peut être aujourd'hui, par exemple, un petit peu ce qu'on fait, hein, ce qu'on vous présente. Ça peut être aujourd'hui responsable marketing sur une association e-sport ou développeur de la communication e-sportif. Comme c'est un domaine un peu spécifique, on propose des formations spécifiques. C'est-à-dire que ça peut être une école de marketing dédiée à l'e-sport. Moi, j'ai l'exemple aujourd'hui, tout simplement, hein, mon cousin a fait une école de marketing et a fait ensuite un an de spécialisation avec un DE spécialisé dans métier de l'e-sport. Aujourd'hui, c'est une formation reconnue diplôme d'État.
Et concrètement, voilà. Ça débouche sur quel métier pour lui?
Alors, lui, par exemple, aujourd'hui, il est manager sur une équipe qui est en division 1 et il vit pleinement de ce job. Hein. Voilà. Il est devenu manager d'une équipe en division 1. Voilà.
Donc, ouais. Division 1, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, c'est le championnat élite, c'est ça?
C'est le championnat élite, oui. Ça, voilà, division 1, ça correspondrait à la Ligue 1 au niveau du football, par exemple, ou à la Pro A au niveau du basket.
Toujours, par contre, sur League of Legends.
Alors là, c'est sur League of Legends. Après, vous avez d'autres métiers. On parlait tout à l'heure de Twitch qui émergent, hein, et qui sont là, effectivement, depuis un peu plus longtemps. Vous avez des métiers de streamer, mais vous avez des métiers aussi de ce qu'on appelle de caster. C'est un commentateur sportif. Ouais. Spécialisé aujourd'hui dans
l'e-sport. Qui va commenter les voilà, les parties.
Et ça, c'est des métiers qui sont très, 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 très spécifiques puisque c'est quasiment à l'identique le même métier qu'à la télé, simplement que c'est diffusé effectivement en live et qu'on a effectivement la vision de la personne qui commente. Voilà. Et donc là, on a effectivement une école, par exemple, sur Angoulême qui propose ce type de formation, l'école Helios Gaming School qui est domiciliée dans les locaux de Media School. Qui propose ce type de formation. Et on a par exemple eu la chance, au niveau de l'association, sur notre précédent événement, donc l'Angoulême au mois d'octobre 2021, on a pu recevoir 10 étudiants de l'école Helios Gaming School en stage sur l'événement, donc sur ces deux jours, pour perfectionner leur cursus scolaire sur le casting, donc c'est-à-dire le commentaire au niveau des parties, sur l'organisation d'un événement, organisateur d'événementiel aussi, sur toutes ces pratiques qui sont nouvelles et qui deviennent effectivement des métiers à part entière dans le domaine de l'e-sport.
Oui, et puis c'est vrai qu'au final, associer Angoulême, qui est la ville de l'image par excellence, au e-sport, qui est vecteur d'image également, c'est un pari gagnant-gagnant.
Tout à fait. Aujourd'hui, on n'avait pas forcément fait ce qu'on appelle, on va dire, un état de l'art ou une étude de marché avant le lancement de l'association. Nous, ce qu'on a simplement vu, c'est les 50 demandes d'adhésion, ce qui était x10 par rapport à l'année précédente.
Ouais. Juste une question du coup par rapport à l'adhésion. C'est une adhésion annuelle. Combien votre adhérent doit payer à l'année pour avoir accès au serveur Discord et aux entraînements?
Aujourd'hui, comme on propose exclusivement des services en ligne, aujourd'hui l'adhésion est gratuite.
D'accord, ok.
Voilà.
Ah
ouais. On ne fait pas payer aujourd'hui nos services en ligne. Aujourd'hui, l'adhésion est gratuite.
Au final, il y a juste à vous rejoindre sur votre serveur Discord du coup.
Aujourd'hui, l'adhésion est gratuite. Il y en a simplement à nous rejoindre sur le serveur Discord et on a aussi un site internet. Où il y a un formulaire d'inscription effectivement en bonnet du fond, mais ça reste effectivement gratuit.
D'accord.
Puisqu'effectivement, nous, à part les prestations qu'on effectue, à part, ce sont des prestations par contre que l'on fait payer. Voilà. C'est le format qu'on a choisi d'adopter, puisqu'aujourd'hui, ne bénéficiant pas de locaux, on a aussi la portée qu'on a, c'est-à-dire qu'on reste malgré tout pour l'instant sur un format en ligne, et c'est pourquoi en fait on ne fait pas payer l'adhésion.
Et puis ça permet à des joueurs qui jouent parfois un très bon niveau de leur côté, finalement de faire connaissance et de se retrouver et de mutualiser leurs talents.
Tout à fait. Et puis ça vient de toute la France. Hein. On a présenté l'année dernière une équipe où on avait un joueur du nord de la France, un joueur de Montpellier.
Oui, voilà. C'est l'avantage du numérique, c'est qu'on peut adhérer à des clubs qui sont à l'autre bout de la France, tout en restant chez soi.
Tout à fait. Oui. Là où c'est un petit peu différent pour nous, effectivement, c'est qu'on veut et qu'on a cette volonté de s'inscrire localement. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est ouvert effectivement aux écoles et qu'on propose effectivement aussi nos services aux écoles et nos inscriptions aux écoles.
D'ailleurs, le public est venu vous voir à Cara lors du Forum Sport Centre Environnement. J'imagine que vous n'avez pas tenu des statistiques sur l'âge, mais c'était quel type de génération qui venait vous voir?
Alors, au risque de surprendre, on a eu énormément de familles. Le côté curieux de se dire, une association d'e-sport, ok, bon, je connaissais pas, je vais découvrir. Donc, c'est énormément de familles. Donc, ça peut être effectivement des enfants très jeunes qui jouent, qui débutent sur leur premier jeu voilà, à 13-14 ans, avec des parents qui s'inquiètent aussi des pratiques parce qu'ils y passent du temps, parce que effectivement il y a le côté addictologie. Tout comme on a eu aussi un très bon public de nouveaux, de ce qu'on appelle les primo-arrivants, de nouveaux arrivants sur Angoulême, qui sont là pour leurs études, voilà, des étudiants qui sont là pour leurs études, pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui sont intéressés pour s'engager effectivement dans un club, dans une association, et qui nous ont demandé effectivement des formulaires d'inscription au même titre que d'autres associations.
Est-ce qu'on voit le cas de parents qui jouent et qui finalement font découvrir l'activité aussi à leurs enfants?
Alors ça, c'est ce qu'on a pu découvrir sur ce qu'on appelle la LAN, donc c'est l'événement en physique qu'on a organisé au mois d'octobre 2021. C'était l'événement majeur pour nous, c'était notre plus grande réussite, dans le sens où le fait d'avoir proposé effectivement toutes ces activités un peu différentes, on avait les parents qui pouvaient faire découvrir effectivement aux plus jeunes en disant « moi j'ai déjà joué à Counter-Strike », on avait du Mario sur Nintendo 64, donc ça permettait aussi une intergénération hein, entre les personnes. On avait des personnes qui se connaissaient pas, qui jouaient ensemble, des parents qui jouaient avec leurs enfants, les enfants qui faisaient découvrir les nouveaux jeux, les parents qui jouaient sur des consoles rétro et les enfants qui allaient jouer avec les parents. Donc effectivement, ça se croise au niveau de l'âge et c'était notre plus grosse réussite sur cet événement-là.
En parlant de l'âge, est-ce que vous avez déjà un événement prévu au niveau organisationnel est-ce qu'il y a des projets d'organisation à venir dans les prochains mois ou les prochaines semaines?
Tout à fait, ça c'est un petit peu effectivement notre futur. Donc nous maintenant on a pris le temps de bien se structurer aussi en interne hein, pour accompagner au mieux tous ceux qui adhèrent à notre association. Et maintenant donc on est sur une année 2022-2023 où la prévision effectivement c'est l'ouverture au campus angoumoisin. Donc en prévision on va dire de façon officieuse, on aimerait bien organiser effectivement un tournoi inter-école co-organisé potentiellement avec le SCUC. On a un accord de principe avec eux depuis maintenant quelques mois. Donc un tournoi inter-école co-organisé avec le SCUC et une nouvelle LAN, effectivement un nouvel événement pareil en physique, potentiellement à l'espace Franquin sur les mois potentiellement donc de mars ou avril 2023.
Comment vous pouvez, alors vous avez une assemblée générale, le siège social, il y a certainement un siège social, oui. Comment vous vous organisez pour notamment faire des réunions et quel est votre métier?
Moi personnellement, rien à voir avec l'e-sport, je suis un pratiquant totalement grand public, même pas format amateur. Moi aujourd'hui je suis conducteur de travaux dans le bâtiment, donc absolument rien à voir. Voilà, je suis conducteur de travaux dans le bâtiment et j'ai toujours cette passion un petit peu de jouer aux jeux vidéo comme ça dans ma chambre ou avec mon frère. Et je me suis dit, j'ai besoin de m'engager dans quelque chose. Pourquoi pas m'engager dans quelque chose qui me plaît, qui me fait aussi penser un peu à ce que je pratique professionnellement. Donc moi, je suis sur le pôle, au niveau de l'association, je suis sur le pôle marketing et anciennement sur la communication. Donc je me suis dit que c'était très enrichissant pour moi d'un point de vue professionnel et personnel et c'est aussi pour ça que j'ai pris part au projet. Voilà, tout simplement. Je pense que Chloé, tu peux peut-être faire un parallèle aussi avec toi, avec ton cursus.
Ouais, du coup, moi pareil, rien à voir avec l'e-sport, je suis étudiante en droit actuellement. Et pareil, j'ai toujours aimé tout ce qui est l'univers des jeux vidéo, etc. Je joue un petit peu tout ça. Et forcément, comme Erwan disait, c'est toujours une expérience très enrichissante parce qu'on est amené à rencontrer de nouvelles personnes qui ont des compétences, etc., forcément. Et du coup, pareil, je suis aussi dans le pôle marketing.
C'est aussi un peu le point convergent de l'e-sport, c'est que ça fait converger des personnes qui ne se seraient peut-être croisées jamais croisées ni d'Adam ni d'Ève. Enfin,
ça c'est le propre des clubs, j'ai envie de dire, et puis surtout des clubs pas de sport conventionnel. Moi, je sais qu'au club de poker, j'ai croisé tout type de professions et surtout des personnes que je n'aurais jamais croisées dans ma vie.
Tout à fait, et ça fait aussi bouger beaucoup de monde. Enfin, moi, je vois aujourd'hui, je suis de Limoges, donc rien à voir avec Angoulême. J'ai mon école sur Angoulême. Je participe à un projet sur Angoulême. On a l'exemple de Chloé qui étudie à la Sorbonne à Paris. Voilà, notre président aujourd'hui est bordelais. Il est retourné sur la région bordelaise. Voilà. Et à côté de ça, on arrive à tous se retrouver effectivement sur ce domaine-là, que ce soit en ligne ou en présentiel, sur nos événements sur Angoulême.
Est-ce qu'on peut dire, Erwan, que le e-sport est un facteur de lien social?
Ah, c'est plus qu'un facteur de lien social, c'est le facteur de lien social, effectivement.
Par rapport à ça, quels sont, mettons, sur Année Plus 1, où est-ce que vous voyez, vous, avec votre association?
En termes de perspective à Année Plus 1, effectivement, on souhaiterait bien se développer au même titre et parallèlement avec le SCUC sur le campus angoumoisin à Année Plus 1. On aimerait vraiment proposer ces tournois réguliers pour les écoles, parce qu'effectivement, ces facteurs de lien social, c'est exactement pour ça qu'on a souhaité s'inscrire dans l'angoumois étudiant qui avait lieu donc sur Angoulême. C'est que on souhaite que les étudiants, effectivement, en arrivant, puissent nouer des liens entre écoles et non pas forcément uniquement inter-écoles, puissent nouer des liens inter-écoles et interagir entre eux par le biais du domaine de l'e-sport. Donc, c'est effectivement l'axe de développement principal de l'association.
Oui, mais c'est le mot association, c'est un lien social qui se voilà, c'est un lien social dans toutes les communes. Tout à fait. C'est là où tout le monde peut se retrouver, se rencontrer. La preuve, vous en êtes des exemples. Donc c'est vraiment un lien social. L'association, il n'y a pas une association qui ne peut pas dire je fais pas de lien social. Non, mais je connaissais pas du tout, et donc c'est très intéressant cet entretien. Et j'aurais une dernière question. Comment on peut donc vous contacter? Je crois que vous l'avez déjà dit, mais est-ce que les gens ont la possibilité également de se rencontrer une ou deux fois dans l'année?
Bien sûr, les gens ont la possibilité de se rencontrer une ou deux fois dans l'année, effectivement, sur nos événements. Ou alors même sur demande, hein, sur nous, effectivement, sur demande, on peut se rendre présent sur Angoulême. C'est aussi l'objet principal de l'association, hein, c'est des rencontres. Donc évidemment qu'on se rend disponible. Aujourd'hui, on peut nous contacter essentiellement, j'ai envie de vous dire, puisque toutes les infos sont reprises dessus par le biais du site internet GoNextFast.
Vous pouvez le
site. .xyz. Et en fait, tous les liens, le serveur communautaire, nos serveurs de communication, tout est dessus.
Voilà. Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports lundi 19h-20h30. Nous retrouvons nos invités Erwan Michel et Chloé Peters qui répondent aux questions de Christian et de Dédé. Christian, c'est à toi.
Je suis en train de visiter actuellement leur site, du coup. Hein, je me documente un peu et j'apprendrai des choses et je me coucherai moins bête ce soir. La statistique que j'ai relevée tout à l'heure par rapport à vos explications, c'est le 93% d'hommes et le 7% de femmes. Alors là, du coup, c'est surtout une question. Ah, dans le milieu professionnel, dans les pratiquants d'e-sport,
dans les pratiquants, la parité est quasiment respectée. C'est-à-dire qu'on a. Voilà. Chloé, si tu peux reprendre le chiffre, si tu l'as sous les yeux, des joueurs grand public au niveau de la parité.
C'est ça, c'est 49% d'hommes et 51% de femmes.
Voilà, on est à 49-51 sur la grand public, hein, donc c'est la
ouais, parité totalement. Au final, c'est juste le public féminin qui arrive pas forcément à passer le cut de devenir sponsorisé ou d'intégrer une team qui joue vraiment à un gros niveau.
Il y a plusieurs explications à ça. Hein. Ça peut venir aussi de. On a malheureusement, hein, au travers d'un écran, et on le connaît, et on fait beaucoup de prévention là-dessus. On a notamment organisé un atelier lors de notre événement sur tout ce qui est les stéréotypes de genre dans l'e-sport. Sur la discrimination au travers d'un écran, qui pousse pas forcément à aller effectivement plus loin. Donc nous, c'est aussi pour ça qu'on est là pour proposer ce cadre et accompagner effectivement toutes les équipes et toutes les personnes qui souhaitent effectivement devenir professionnelles ou du moins travailler sur le domaine e-sportif.
Et quand vous parlez de compétition, est-ce que dans ces compétitions, il y a une finale, un quart de finale? Comment vous sélectionnez?
Tout à fait. En fait, la sélection d'entrée se fait au nombre de. Enfin, il y a un nombre d'inscriptions, il y a un niveau minimum requis. Tout comme une équipe sportive, il y a un niveau minimum requis. Et en revanche, ça s'organise exactement comme un tournoi classique. C'est-à-dire qu'on a des poules, on a des sorties de poules avec huitième, quart, demi, finale, et avec un gain effectivement à l'arrivée. Pour vous citer un des plus gros événements français en matière d'e-sport, vous avez l'exemple de la Gamers Assembly qui a lieu à Poitiers. Il faut savoir que la Gamers Assembly, c'est 75 000 personnes sur un week-end. C'est 4 000 e-sportifs professionnels qui y participent. Et on parle de 75 000 euros de gains. Donc, on parle vraiment d'un gros, gros tournoi.
Pour suivre quelques Twitchers et YouTubers, c'est vrai qu'il y a aussi des événements comme les conférences ou la Paris Games Week. Je suis pas du tout spécialiste, vous allez sûrement me reprendre, mais c'est ce qui permet aussi vraiment de développer un peu l'activité.
Tout à fait. La Paris Games Week ou les événements de ce type, en fait, ça permet effectivement à toutes ces personnes de se re-rencontrer effectivement dans des lieux physiques.
Oui.
Voilà, d'échanger, de croiser leurs informations, de croiser aussi leur expérience, parce que on n'a peut-être pas forcément toutes les mêmes expériences, que ce soit d'une structure à l'autre. Ça permet aux structures de se rencontrer, de partager entre elles leurs pratiques, leurs moyens de communication. Donc, c'est des événements qui sont effectivement très importants pour nous et qui sont, j'ai envie de dire, plus qu'en développement, puisqu'on en recense de plus en plus aujourd'hui.
Oui, j'ai envie de dire que pratiquement, d'ailleurs, toutes les grandes villes de France ont leur salon du... Alors, je sais pas si le salon du jeu vidéo est le terme approprié, mais en tout cas... En tout cas, c'est vrai que ça se développe bien. Il y a forcément du Paris, il y a du Lille, toutes les grandes villes ont pratiquement leur salon.
Paris, Lille, Tours, vous avez aujourd'hui Poitiers, vous avez aujourd'hui Angoulême, puisque du coup l'Angoulême rentre dans ce cadre-là aussi.
Ouais, ouais.
Voilà, l'Angoulême pour un premier tournoi, c'était 50 joueurs, 300 entrées. On avait quand même réussi à totaliser 4000 euros de cash prize, donc c'était déjà très très bien pour nous. La Gamers Assembly, on parle d'un tournoi démocratisé, donc le plus gros tournoi aujourd'hui de France, c'était leur 20e édition, hein, donc on parle d'autant de joueurs pour effectivement une 20e édition, donc voilà, c'est deux poids deux mesures.
On a 20e édition, donc ça veut dire que ça a été créé en 2002?
Alors, il y a plusieurs éditions par an, ils D'accord, en font généralement okay. une à deux par an, voilà. Mais ça a quasiment 10 ans, oui.
Ouais, donc c'est pas mal finalement, c'est un peu le mastodonte du e-sport.
Tout à fait. Et on a l'exemple aussi d'événements caritatifs communautaires, comme on a eu l'exemple là récemment hein, du Z-Event.
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà, le Z-Event qui aujourd'hui est un événement de streamers. Donc c'est les personnes qui jouent ou qui font des lives effectivement sur la plateforme Twitch.
Et qui récoltent des fonds.
Voilà, et qui récoltent des fonds pour des associations. Donc cette année c'était sur le thème de l'environnement. Et ils ont pu totaliser effectivement un total de 10 millions d'euros. Donc on voit aujourd'hui l'engouement aussi autour de ce domaine-là.
Chaque année, ils battent à chaque fois le record.
Et chaque année, effectivement, on voit l'engouement qui augmente puisqu'ils battent à chaque fois, chaque année, le nouveau record.
Ouais, on peut dire que c'est un peu le téléthon du
C'est Twitch. Totalement le téléthon. C'est, voilà, chaque année, le type d'association ou l'association change. Ouais. Mais le principe reste le même. C'est un téléthon en faveur d'associations qui sont... soit contre la malnutrition, soit il y avait une année Action contre la faim ou encore l'Institut Pasteur. Et voilà, c'est un téléthon sur des thématiques différentes, effectivement.
D'ailleurs, est-ce que votre asso, elle est présente sur Twitch?
Sur Twitch, oui, tout à fait. Oui. On a effectivement une chaîne Twitch sur laquelle effectivement on propose des lives assez réguliers, oui.
Toujours sur LOL ou changez un peu les plaisirs?
Il y a un peu de tout. Alors, on a effectivement nos jeux principaux avec nos équipes principales. On a l'exemple, effectivement, des gros tournois qu'on a fait. Donc là, effectivement, on les a rediffusés. Maintenant, on propose aussi d'autres jeux qui sont, voilà, différents où chacun peut s'imprégner, on va dire, de ce jeu. On a l'exemple du jeu, par exemple, on a fait des lives sur Minecraft. C'est un jeu tout simple, hein, de construction et de survie qui est très adapté à tous les types de publics. Voilà, c'est des jeux qui nous font plaisir, et si nous ça nous fait plaisir, derrière ça se retranscrit aussi au travers de l'écran.
Vous écoutez Attitude 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi 19h-20h30, nous retrouvons Erwan Michel et Chloé Peters de l'association Gonex Fast qui répondent aux questions de Christian et de Dédé. Messieurs, c'est à vous. Est-ce qu'il y a des thèmes auxquels vous êtes particulièrement attachés sur le sport?
Je dirais la prévention et la mise en place d'un cadre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui ressort, y compris des enquêtes, hein, c'est que ce qui est très important dans le domaine de l'e-sport, c'est la mise en place d'un cadre. Donc, c'est ce qu'on souhaite proposer, c'est ce qu'on propose pour effectivement cadrer les pratiques. Si aujourd'hui l'e-sport veut évoluer et est en train d'évoluer, c'est grâce à ce cadrage des pratiques.
Et quand on parle d'entraînement, donc j'imagine que c'est des sessions de jeu dans la semaine, peut-être qu'il y en a même plusieurs, parce que qui dit entraînement dit forcément on joue, donc on s'améliore en jouant, mais est-ce qu'il y a des entraîneurs ou des coachs?
Tout à fait, donc ça peut arriver, donc ça on le réserve par contre à nos on va dire, nos parties compétitives, et on le propose effectivement de façon occasionnelle sur des personnes qui nous le demandent. Voilà, il y en a certains qui ne souhaitent pas être accompagnés par des coachs, qui souhaitent se développer par eux-mêmes. Mais sur les personnes qui le demandent, effectivement, on met en place un accompagnement avec des coachs. C'est des personnes, voilà, qui prennent du recul sur les parties des joueurs, qui les conseillent, que ce soit sur d'un point de vue effectivement mental ou même d'un point de vue mécanique, hein, sur leurs compétences de jeux vidéo. Et c'est quelque chose qui leur permet de progresser soit individuellement, par le biais effectivement du coach mental, ou même de la prise de conscience de leur partie, ou même e-sportivement.
Je vais faire un parallèle avec l'aviron, hein, Didier. On fait toujours cette activité. C'est vrai que l'entraîneur d'aviron, il nous a toujours dit que c'était très compliqué de composer un bateau, parce qu'il fallait trouver le bon équilibre, et puis vraiment que tout le monde tire dans le même sens, entre guillemets. Est-ce que c'est compliqué de composer une team d'e-sport?
C'est extrêmement compliqué.
Et quand on parle de team, je termine juste ma question, et quand on parle de team, on parle de combien de joueurs?
Aujourd'hui, les équipes les plus courantes, c'est des équipes de 5. Un exemple sur Valorant et sur League of Legends, c'est des équipes de 5. 5 sur des postes différents. Donc le souci, c'est que c'est des postes, on va dire, spécifiques. Tout comme l'aviron, je connais très peu le domaine, mais moi, je connais un petit peu mieux le basket.
Oui.
Aujourd'hui, le basket, il y en a un qui joue pivot, il y en a un qui joue ailier, il y en a un qui joue meneur.
Avec des qualités forcément qui sont différentes.
Avec des qualités qui sont différentes et des mécaniques de jeu qui sont aussi différentes. Donc là où c'est très compliqué dans le domaine de l'e-sport, c'est de trouver effectivement des professionnels, des gens qui soient voilà, compétitifs sur le domaine de l'e-sport, puisqu'on l'a vu, aujourd'hui, ça représente voilà, 3% du grand public. D'en plus, les trouver au bon poste et d'arriver à les faire jouer ensemble. Donc c'est comme n'importe quel sport collectif, on a le basket qui se joue aussi à 5, sur un 5 majeur.
Oui.
Et ben là aujourd'hui sur l'e-sport, c'est le même principe. C'est très compliqué de trouver un 5 majeur avec des remplaçants qui acceptent d'être remplaçants, qui joueront pas forcément, avec des coachs qui s'entendent aussi bien avec l'équipe. On a aujourd'hui les mêmes problématiques que sur les sports co.
Dans l'e-sport, quels sont les profils qui sont recherchés donc dans cette équipe à 5?
Aujourd'hui, tout type de profil, il faut pas avoir que des personnes qui sont, on va dire, sans tempérament. C'est bien aussi d'avoir des personnes avec du tempérament. C'est entre guillemets une alchimie qui doit avoir lieu. C'est quelque chose qui doit prendre entre l'équipe pour qu'ils aient plaisir à jouer ensemble. S'ils n'ont pas plaisir à jouer ensemble, ça se ressentira sur les parties, puisque tout émane en fait de l'attention du joueur et de sa concentration dans la partie. Donc si effectivement il y a déjà un problème d'entente avec son équipe, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Donc c'est tout vient en fait de la chimie entre les joueurs. On n'a pas forcément de profil type en disant on veut un joueur tel poste avec tel niveau. Non, on peut prendre des joueurs qui soient plus bas niveau par exemple, mais qui s'intègrent très bien dans une équipe et qui permettent en fait à l'équipe de grandir. Dans le sens où aujourd'hui une équipe c'est pas la meilleure parce qu'on a les 5 meilleurs joueurs. C'est la meilleure parce qu'elle sait jouer en équipe.
Oui, voilà. Tout à fait.
Et ça c'est ce qui se retraduit vraiment majoritairement sur le domaine de l'e-sport.
Ça c'est comme dans le football, tu peux aligner les 11 meilleurs joueurs du monde, c'est pas forcément l'équipe qui gagnera tous les matchs, absolument.
Si on fait un parallèle un peu maladroit, j'ai envie de dire, avec la Ligue 1, on a l'exemple aujourd'hui de Lorient. Je pense pas que Lorient aujourd'hui ait aligné les 11 stars internationales, et pourtant ils jouent telle une équipe.
C'est vrai.
Et aujourd'hui on voit la conséquence au classement. Hein.
C'est vrai qu'ils sont pas mal. Par rapport toujours à la construction d'une équipe, j'imagine que c'est très compliqué de répondre à cette question, mais combien de temps une équipe finalement elle met pour devenir compétitive et se construire?
Pour se construire, il faut déjà le temps effectivement de la former, qu'elle puisse s'entraîner ensemble. Parce qu'on a aussi la barrière de la langue. Hein. Ça aussi, on le vit dans le domaine de l'e-sport. On a eu aujourd'hui un Portugais qui est passé par l'association. On a eu un Croate aussi. Parce que quand on veut des équipes compétitives, il y a parfois où on est obligé d'aller chercher des joueurs un peu plus loin. Donc il y a la barrière de la langue. Je dirais entre 3 et 4 mois pour avoir une équipe qui joue ensemble. Voilà. 3 et 4 mois, je pense. C'est-à-dire que l'équipe sera composée, elle va jouer ensemble, elle peut faire des compétitions. Et c'est aussi pour ça qu'on parle d'un circuit, puisque si on regarde le calendrier des événements e-sport, ils sont essentiellement basés souvent au mois de avril, mai, juin d'une année. Pourquoi ? Parce que la saison, il y a un mercato l'été, tout comme n'importe quel championnat.
Oui, donc en fait, fonctionnez du coup sur année scolaire ?
Oui, tout à fait, on fonctionne sur année scolaire. Et en fait, ces compétitions, on leur a apogée sur les LAN, justement, donc sur les formats présentiels, où là, c'est voilà, il n'y a pas de tournoi tout au long de l'année. Par contre, c'est le jour où faut être bon, c'est le jour effectivement de l'événement. Et c'est pour ça que les équipes généralement se préparent de septembre à avril et après vont faire effectivement les grosses LAN telles que la Gamers Assembly par exemple.
Ouais, c'est un peu comme c'est un peu comme le foot US au final où il y a beaucoup de où les compétitions sont très resserrées de septembre à février et puis le reste du temps on parfait le cahier de jeu et puis on apprend toutes les combinaisons et puis on essaie vraiment d'être une équipe et d'être une vraie équipe.
Tout à fait, c'est exactement ça pour l'e-sport professionnel en France, c'est actuellement ce qui se passe.
Et ces équipes-là, est-ce qu'elles sont, elles sont multijeux ou elles sont vraiment spécialisées dans un seul jeu?
Non, aujourd'hui, on ne pourra pas demander à un basketteur d'aller faire du foot au niveau de la Ligue 1. L'e-sport, c'est pareil, c'est très spécialisé. Voilà.
Ce serait marrant quand même d'avoir une sorte de triathlon où finalement toutes les équipes font plusieurs jeux et puis on trouve une cotation commune et on voit finalement un peu l'équipe qui est la plus complète.
Ça se fait un petit peu dans le sens où aujourd'hui Amazon
par exemple aussi.
Oui, voilà, tout à fait. Ça se fait un petit peu dans le sens où aujourd'hui Amazon par exemple chaque année propose un tournoi sur 3 ou 4 jeux différents et où il faut arriver à composer une équipe de 8 joueurs sur 3 ou 4 jeux différents. Et donc ça, c'est Amazon qui est le promoteur de ce tournoi-là. Et c'est un tournoi essentiellement étudiant. Il faut obligatoirement être étudiant pour y participer. Et il faut monter une équipe de 8 joueurs pour participer à 5 ou 6 jeux différents. Voilà. Donc ça existe. Effectivement, ça existe.
Ouais. Ah oui, il y a beaucoup de concepts à créer ou à développer.
Tout à fait. En fait.
C'est intéressant.
Tout à fait.
Moi, j'avais une dernière question sur les jeux vidéo globalement. Je sais pas si on est dans le cadre de l'e-sport, mais moi je suis plus spécialisé sur le football et c'est vrai que on voit que avant les jeux comme FIFA, PES, donc des jeux où on contrôle le joueur avaient la part belle et on voit depuis quelques saisons maintenant que des jeux comme Football Manager où donc là c'est vraiment de la simulation ou du management, sont en train de se faire aussi une petite part du gâteau. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce changement?
Je pense que c'est bien de mettre en lumière des métiers ou des personnes qui ont toujours travaillé et œuvré un peu dans l'ombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a l'exemple avec les équipes e-sport, hein, c'est un peu le même principe, même si aujourd'hui les jeux ne se développent pas sur ce biais-là. C'est que sur une équipe de 5 joueurs, ou 7, puisqu'on a des remplaçants, on peut avoir une équipe qui totalise exactement le même nombre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une équipe d'accompagnants de 7 personnes pour 7 joueurs. Donc c'est bien, je trouve que ce type de jeu se développe, puisque on développe aussi de nouvelles maîtrises au travers de ces jeux qui sont des caractéristiques techniques qu'on voit pas en étant joueur, des caractéristiques effectivement mécaniques en associant des joueurs, en exemple de FIFA, en associant des joueurs qui sont pas habitués à s'associer ou qui ont jamais joué ensemble. Donc c'est bien que ça se développe, au moins on voit aussi l'autre côté effectivement du miroir.
Ouais, et puis la moralité de l'histoire au final c'est que l'encadrement est pratiquement aussi important que le niveau du joueur.
Tout à fait.
Et qu'un joueur bien encadré, ça forcément plus performant qu'un joueur qui a du talent mais qui est pas très organisé dans sa façon de jouer ou dans sa façon de se préparer.
C'est exactement ça. C'est très bien résumé. Et puis c'est exactement ce que nous on voit hein, sur les.
On va retenir cette phrase et puis on la diffusera du coup lors des prochains événements. Alors dans ce cas-là.
Pas de souci. c'est exactement ce que nous on. Ah oui. Tiens, c'est ce qu'on voit en pratique au niveau de l'association.
Parfait. Chloé et Erwan, merci d'avoir accepté notre émission. Nous arrivons au terme de celle-ci. Donc, vous nous avez apporté de nombreux éléments qui vont faire que culturellement, on va s'enrichir. Christian le disait, donc c'est pour nous une porte ouverte sur des métiers, enfin sur des associations ou des jeux que nous ne connaissions pas. Donc, merci de nous avoir apporté toutes ces connaissances. Est-ce qu'il y a un dernier point que vous
souhaitez? Moi, j'aurais une dernière question pour nos deux invités, qui est la même, mais les réponses seront forcément différentes. Quel a été votre premier jeu, votre porte d'entrée finalement dans ce monde-là?
Alors moi, de façon très singulière, c'est un jeu qui, voilà, on en a parlé tout à l'heure, c'était Minecraft. C'est un jeu où il y a tout simplement des blocs, où il faut construire sa maison, survivre. C'était mon tout premier jeu auquel j'ai pu jouer sur mon ordinateur. Voilà.
Et vous, Chloé?
Moi, je pense que c'est Mario sur DS.
Non.
Oui, effectivement, il y a Mario aussi.
Ouais. Il me semble que c'est ça, ouais.
Je pense qu'on a tous découvert aussi un petit peu effectivement cet univers des jeux vidéo au travers de Nintendo hein, qui a été très fort notamment pour les plus jeunes.
Ouais, et puis avec les consoles miniaturisées.
Oui, tout à fait.
Bah, avec je sais que quand j'ai eu ma première Game Boy Color, j'étais très content à l'époque. C'était fin 90.
Tout à fait, oui. Je pense qu'on a. Moi personnellement, j'ai démarré effectivement aussi sur DS.
Ouais. Ouais. Ah, du coup, j'ai connu la génération d'avant dans ce cas-là.
Oui, j'ai eu une Game Boy, mais après coup.
Parfait, Chloé et Erwan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous fera un coucou en fin de saison. Donc pour nous, c'est juin. Donc on se donne rendez-vous à peu près à cette date-là pour savoir où vous en êtes et quels sont les événements que vous souhaitez mettre en lumière. D'accord?
Pas de souci, avec grand plaisir.
Ça marche.
Parfait, merci d'avoir accepté notre émission. À très bientôt. Au revoir.